La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RMC Running.
Geoffrey Charpie.
Le soleil est en train de se coucher sur la piste de Charletti, la plus belle piste d'Île-de-France et forcément la plus belle piste de Paris. On est en plein cœur de la tentative de record du monde. RMC Running en partenariat avec Garmin. Pour l'instant, on est en avance de 6 ou 7 km sur les temps de passage, donc on est très très bien. Mais pourquoi on est très très bien? C'est parce que nos coureurs, nos champions, ils sont chatoyés, voilà, par une équipe d'ostéopathes qui est arrivée dès le début de cet événement et qui est représenté aujourd'hui par Jean-Baptiste Autin, directeur de l'école supérieure d'ostéopathie. Ça va Jean-Baptiste?
Ça va super, merci.
Super. Encore une fois, au nom de toute l'équipe RMC Running, Benoît Boutron et Yoann Durand, on tient à te remercier de t'être rendu disponible avec tes étudiants. On va en recevoir d'ici quelques minutes. Mais pour toi, ça a été assez facile de dire oui assez rapidement à ce projet?
Ah oui, complètement. Bah déjà, on a été mis en relation grâce à Antoine Raillard, qui est enseignant chez nous et que vous suivez régulièrement sur ses exploits.
Antoine la girafe sur Strava, ceux qui veulent aller le voir.
Donc il nous a mis en relation, quand on nous a proposé d'intervenir sur le RMC Running, bon, tout naturellement on a dit oui tout de suite. Bon, les étudiants ont suivi, ils étaient nombreux à vouloir venir, on a sélectionné les plus motivés.
Ouais.
Les meilleurs, il faut le dire. Et donc aujourd'hui on est là jusqu'à minuit ce soir et puis demain on sera de 11h jusqu'à 16h pour encadrer les coureurs et leur proposer des soins ostéopathiques.
Génial, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'est l'ESO, le zoo?
Alors
l'ESO,
c'est une grande école d'ostéopathie, c'est une école assez ancienne qui date de 1990. On est basé à Champs-sur-Marne, c'est pas loin de Marne-la-Vallée.
Ouais.
On forme des ostéopathes en 5 ans, après le bac directement. Et à l'issue de ces 5 ans, ils vont pouvoir s'installer en tant qu'ostéopathe, être diplômés. Mais comme Marion et Andrea qui sont là aujourd'hui et qui dans 15 jours, si tout va bien normalement, seront mes collègues, mes consoeurs, mes confrères.
Et bah d'ailleurs on va recevoir Marion qui est avec nous. Ça va Marion?
Salut, bonjour à tous.
Tout va bien?
Oui, tout va bien, merci.
Bon génial, dans 15 jours tu vas être diplômée, c'est un petit peu d'appréhension, un petit peu de stress?
Un petit peu de tout ça forcément parce que c'est l'aboutissement de 5 années et que on a hâte aussi de se lancer dans le grand bain comme on dit, donc ouais. C'est un peu tout ça.
Toi, tu es là depuis le début d'après-midi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton cursus? Parce qu'on l'a dit avec JB, tu vas être normalement si tout se passe bien. Mais je pense que vu que tu es là, tu as été sélectionné par les meilleurs, par Jean-Baptiste, tu seras diplômé dans 15 jours. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus pour arriver à être diplômé en tant qu'ostéopathe?
Le processus des 5 années, qu'est-ce qu'on fait à peu près?
Exactement,
c'est ça?
Ouais.
Pour pas retravailler trop dans le détail, en gros, les 2 premières années, on va faire pas mal de théorie, donc voir beaucoup l'anatomie du corps humain, mais pas que, aussi la physiologie, donc c'est-à-dire en fait comment ça fonctionne. Et on va aussi commencer à faire un petit peu de recherche pour justement, quand on arrive en 3e année, ça y est, on est dans la clinique de l'ESO, donc qui est à Champs-sur-Marne, vraiment aller rattacher à nos locaux de là où on étudie la théorie. Et donc, on commence à recevoir nos patients dès la 3e année. On est toujours en binôme, en fait, avec des années supérieures. Donc, soit quelqu'un en 4e année, soit quelqu'un en 5e année. Et comme ça, petit à petit, on progresse. Donc, arrivé en 4e année, on continue à prendre les patients. Mais là, on commence à réfléchir à notre mémoire qu'on va soumettre en 5e année. Et donc, je vais présenter dans 10 jours.
D'accord.
Globalement,
donc,
voilà.
Donc, toi, le mémoire que tu as présenté cette année, là, dans 10 jours, tu as déjà commencé à y réfléchir à partir de l'année 2023?
C'est ça, à partir de ma 4e année, tout à fait.
Et il y a un sujet qui s'est imposé à toi directement?
J'y réfléchissais depuis ma première année parce que je savais que voilà, mais j'ai eu un petit déclic pendant l'été et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et voilà, donc j'ai décidé de faire un sujet sur les femmes, aider les femmes qui avaient un syndrome prémenstruel.
D'accord, un syndrome prémenstruel, potentiellement des règles qui arrivent un peu plus tôt?
En gros, c'est pas les règles, mais ça va surtout être les douleurs en fait qui sont liées aux règles et qui arrivent avant et qui peuvent continuer pendant et qui vont altérer un peu la qualité de vie de ces femmes-là et les gêner en fait au quotidien. Donc ça peut être des absences, une altération de la vie sociale, professionnelle, plein de choses qui sont autour de ça.
Et donc forcément, il y a beaucoup de théories, mais comment, d'un point de vue pratique, tu arrives à mettre en œuvre un petit peu cette thèse tout au long de ton année?
Alors, en quatrième année, on va faire tout ce qui est introduction. Donc, faire pas mal de recherches pour trouver des articles qui vont être en lien avec l'ostéopathie, le sujet du syndrome prémenstruel, faire des liens comme ça, rédiger l'introduction et commencer à réfléchir au protocole qu'on va mettre en place. Et arriver en cinquième année, donc c'est là qu'on met en place ce protocole et qu'on reçoit les patients qui ont... pour le coup, moi, ça va être ce syndrome-là, mais ça peut être plein d'autres choses en fonction du sujet, et qu'on commence à faire les études de cas, c'est comme ça qu'on appelle ça.
D'accord. Est-ce que, parce que forcément, les études médicales prennent beaucoup de temps, est-ce que pour toi, l'ostéopathie, ça c'est tout de suite, t'as toujours voulu être ostéopathe ?
Non, j'avoue que j'ai pas fait ça directement après le bac. J'étais plutôt partie sur une année de médecine générale. Mais voilà, en fait, il y avait ce côté trop théorique pour moi. Et j'avais vraiment envie d'être dans le vif du sujet, c'est-à-dire aider concrètement un patient avec les mains, ça m'a plu. Et le côté aussi relationnel avec le patient, où on est quand même... entre guillemets, plus proche qu'un médecin généraliste ou que quelqu'un d'autre. On prend plus le temps d'écouter les patients et de faire une consultation que peut le faire un autre professionnel. Mais bon, voilà, chacun son domaine.
De compétences. Je vais me tourner vers Jean-Baptiste parce que Marion vient d'évoquer le domaine pratique, le domaine théorique. J'ai l'impression, en vous entendant et en étant totalement novice dans ce milieu, qu'au sein de votre école, il y a quand même une grande place lié à la pratique.
Alors oui, bien sûr, dès la première année, ils vont apprendre les techniques ostéopathiques et dès la première année, ils vont intégrer la clinique de l'école qui est située dans l'école, qui est une clinique qui reçoit des patients pour observer les prises en charge faites par les années supérieures.
Ok.
À partir de la troisième année, le jour de la rentrée, on leur donne une blouse, un planning, ils deviennent praticiens au sein de la clinique.
Ah, ça arrive très vite, ouais.
Ça arrive très vite.
C'est une volonté de votre part ?
C'est une volonté de notre part, oui, de très rapidement les mettre au contact du patient. L'objectif, c'est qu'ils soient encadrés par des tuteurs, des enseignants spécialisés qui sont avec eux. Ils sont toujours aussi avec des années supérieures et comme ça, ils peuvent apprendre leur métier auprès du patient directement. Donc troisième année, quatrième année, ils sont en clinique. Cinquième année, ils sont en clinique. Et en cinquième année, on va rajouter en plus des stages, mais comme aujourd'hui par exemple, où ils vont pouvoir soit aller à l'hôpital, traiter des patients spécifiques, ou sur des terrains sportifs, comme aujourd'hui, donc des coureurs. On a travaillé sur le Grand Raid par exemple, on les envoie aussi sur des marathons, sur le pôle espoir d'Aviron à Vers-sur-Marne. Donc ils vont vraiment avoir une vision très spécifique du sportif. Bah, l'objectif, c'est qu'ils aient le plus d'expérience possible. Parce qu'une fois diplômés, ils pourront ouvrir leur cabinet, traiter tout type de patients, où certains vont choisir de se spécialiser, et c'est parce qu'ils auront goûté à ces spécialisations très tôt pendant leur cursus qu'ils pourront faire leur choix.
Toi Marion, est-ce que tu sais déjà si tu vas te spécialiser après avoir été diplômée ?
J'ai quelques affinités justement avec tout ce qui est femmes, enfants, et en fait justement comme l'a dit Monsieur Autain, c'est grâce
c'est
au...
C'est Monsieur Autain, j'aime beaucoup ça, ça j'aime beaucoup. Tant qu'on n'a pas le diplôme, ça reste Monsieur Autain.
Tant qu'on n'a pas le diplôme.
cette année on a pu en fait aller dans des domaines plus ou moins... Par affinité, mais par exemple le sportif, aller dans des stages de maternité, etc. Et donc c'est là que je me suis dit, ah oui, ça c'est sympa, ça me plaît. Et du coup, moi, femme, enfant, femme enceinte, ça m'intéresse, mais tous les autres patients m'intéressent aussi. Hein. C'est juste que voilà, j'ai envie d'approfondir mes connaissances sur ça.
Okay. Jean-Baptiste, tu as un droit de regard un petit peu sur le choix des thèses que font tes étudiants ?
Alors c'est eux qui choisissent.
Hein. Okay.
Donc, comme l'a dit Marion, certains y réfléchissent dès la première année. En troisième année, ils y réfléchissent et en quatrième année, ils vont nous le proposer. Ils vont prendre un directeur de mémoire, donc ce sera un ancien de l'école qui va les accompagner et ils vont développer leur sujet qu'ils auront choisi. Donc Marion par exemple est partie sur le sujet prémenstruel, mais il y a des étudiants qui vont partir sur le sportif ou sur des pathologies ou sur certaines techniques. Et l'objectif, c'est vraiment de faire cet exercice scientifique sur ce mémoire, parce qu'à la fin ils vont le soutenir devant un jury, et dans le jury il y a des universitaires. Et donc c'est montré qu'à la fin, au bout de 5 ans, ils sont capables de produire un mémoire sur les normes scientifiques. On a même certains étudiants qui vont plus loin. Et qui vont produire de la recherche encadrée et qui vont même rédiger des articles qui paraissent dans des revues.
D'accord, et le jury sur lequel tu vas exposer ta thèse d'ici 15 jours, Marion, il est composé de combien de personnes et quels sont leurs cursus en fait ? Est-ce que c'est que des ostéopathes ? Est-ce qu'il y a des médecins, des kinés ? Voilà, c'est la grande guerre kiné, ostéopathe. Est-ce qu'ils sont là pour donner un droit de regard ?
Alors, si je dis pas de bêtises, le jury, il y aura ma directrice de mémoire, ma co-encadrante, quelqu'un de la recherche de l'école, Et justement, comme le disait Jean-Baptiste, quelqu'un d'universitaire, donc un relecteur qui a lu mon mémoire et voilà, qui a un regard vraiment extérieur, qui n'est pas de l'école, de notre école.
Ok, mais si je comprends bien, c'est un mémoire uniquement du coup écrit le jour de l'examen. Il n'y a pas de pratique.
Ah, il y a si. Après, il y a une pratique. Ça, vous oubliez le clinique.
Oui, c'est en deux temps en fait. On va dire ça comme ça.
D'accord. Ok. Il y a d'abord l'examen théorique.
Il y a la soutenance du mémoire, mais okay. Il va aussi passer un clinica. Le clinica, c'est une consultation devant un jury professionnel. Donc on fait appel à un jury.
Avec un patient.
Donc pendant une heure, ils vont passer devant un jury et pendant une heure, donc ils vont réaliser une consultation complète. Le jury, il est composé d'un ostéopathe, de deux ostéopathes. Et cette année, on a une petite particularité. On a appelé des ostéopathes diplômés de l'école d'il y a 20 ans. On leur a demandé de revenir, de faire partie du jury.
Ça, c'est beau,
pour regarder ce que faisait la promo 2024. Donc on attend la promo
2024.
Exactement.
On est très bien.
Voilà.
Dans un instant, on va également accueillir Andrea, qui est un de tes étudiants, Jean-Baptiste. Mais j'aimerais me tourner vers Marion. Marion, je vais te regarder droit dans les yeux. Fais comme si ton boss n'était pas à ta gauche. Voilà. Et explique-moi ce qu'est un ostéopathe.
Ok.
Ostéopathe est-il un kiné?
Non, du coup.
Non.
On peut pas dire ça. Déjà, on est très similaires sur des points, ça c'est vrai, mais sur notre façon de fonctionner, on va être différents sur notre façon de pratiquer. On n'utilise pas les mêmes outils, à savoir que nous, on utilise uniquement nos mains. Les kinés vont utiliser, par exemple, des sondes. Enfin, je veux pas m'aventurer dans ça parce que je connais pas tout le matériel qu'ils utilisent, mais voilà.
Mais quelque chose d'extérieur, vous, c'est uniquement avec les mains.
C'est ça ce qu'il faut retenir globalement. Et puis eux vont être très localisés sur la douleur en fait. Par exemple, t'as mal au genou, ils vont faire la rééducation autour du genou. Alors que si toi tu viens me voir et que t'as mal au genou, oui, je vais regarder son genou, mais je vais regarder aussi ta cheville, je vais aussi regarder ta hanche, et puis je vais regarder l'autre jambe, et je vais regarder comment tu tiens sur tes deux jambes, et ainsi de suite, et regarder en fait tout le corps dans la globalité. Et mon but, ça va être de trouver où est-ce que, en fait, dans ce corps-là, je peux t'apporter plus de mobilité pour que toi, tu arrives à trouver du confort, que ce soit dans ta posture, dans peut-être la douleur que tu connais, ou tes attentes, en fait, par rapport à la consultation aussi, parce que ça peut pas que être tout le temps des douleurs, ça peut être d'autres demandes. Okay.
T'as dit quelque chose de très intéressant. En tant qu'ostéopathe, vous utilisez uniquement vos mains, mais est-ce qu'on peut soigner une douleur uniquement avec les mains?
Alors ça, c'est très complexe comme question, je trouve, parce que le terme soigner ostéopathe, je pense pas qu'on puisse directement l'associer.
D'accord.
Nous, on parle plutôt de traitement, et pour moi, soigner, c'est plutôt un médicament. Alors après, la douleur, c'est tellement vaste que je pense que c'est vraiment multifactoriel, c'est-à-dire que on a notre douleur et puis on va essayer, par exemple, de prendre un médicament, faire des exercices de sport, par exemple pour le genou, prendre un anti-inflammatoire, aller voir un petit peu le kiné, faire des étirements éventuellement si c'est conseillé, et puis aller voir un ostéopathe. Et en fait, tout ce rayon de choses que tu assembles vont t'aider pour ta douleur. Mais il n'y a pas de solution pour moi unique et magique justement pour une douleur. Et c'est justement pour ça que les patients viennent nous voir, parce que ils ont besoin d'une multitude de
facteurs pour expliquer la blessure.
Oui, ou pour trouver des solutions aussi, parce qu'on aide aussi après séance à essayer de trouver des solutions sur le long terme pour justement éviter que ça revienne et ça réitère. Voilà.
D'accord. Mais c'est-à-dire, et cette fois-ci je vais poser la question à Jean-Baptiste, que quand on commence à consulter un ou une ostéopathe, c'est forcément sur le long terme. Ça peut pas être un one shot, en une heure c'est réglé, merci, au revoir, la douleur a disparu.
Alors l'idée, non, c'est de revoir les patients effectivement.
Okay.
Alors, comme dans tout traitement, on revoit au moins toujours une fois le patient, ne serait-ce que pour voir comment le traitement a évolué. En ostéopathie, ce qu'on va proposer au patient, c'est un suivi au long terme. C'est de le voir régulièrement et c'est définir avec lui le plan de traitement. Si je prends aujourd'hui un coureur, il va avoir beaucoup de sollicitations du membre inférieur. Ça va être intéressant de le voir régulièrement pour redonner de la mobilité, s'assurer qu'il y a une bonne mobilité sur ce membre inférieur, le traiter pour prévenir, être dans la prévention et puis l'aider aussi dans la récupération. En fonction du type du patient, on va s'adapter. Il y a des patients qu'on va voir une fois par an, deux fois par an, et puis certains qu'on va voir beaucoup plus régulièrement parce que soit ils ont des pathologies qui font qu'ils ont besoin d'être accompagnés dans la mobilité par rapport à cette pathologie. Et puis comme Marion l'a dit, c'est toujours multi-prise en charge. Hein. On parlait des kinés, on travaille un petit peu main dans la main, si j'ose dire.
Je l'ai. Elle est excellente.
Super. Avec eux, parce qu'il y a cette vision très complémentaire et globale du corps et en même temps de la rééducation. Donc en fonction de chaque patient, ça va être spécifique. Et c'est là le temps que prend l'ostéopathe lors d'une consultation. C'est aussi ce temps de comment je vais travailler avec vous pour votre santé, pour la préservation de votre santé, comment on travaille ensemble. Et l'objectif, bah, c'est de suivre un patient toute sa vie et puis de l'aider à être dans la meilleure santé possible toute sa vie avec tous les autres professionnels de santé.
Génial. Et est-ce qu'une douleur physique pour laquelle vous allez commencer un traitement ou du moins suivre un patient peut être liée, je suis désolé, la question est peut-être un petit peu complexe, mais à quelque chose de plus psychologique? Est-ce qu'une douleur peut apparaître parce qu'on n'est pas bien dans sa peau, parce qu'on a du stress, parce que, je ne sais pas, tout et n'importe quoi?
Alors, on sait aujourd'hui que le psy, il joue beaucoup sur le ressenti de la douleur. Donc, il faut toujours avoir cette approche du patient sur l'ensemble de ce que c'est qu'un patient. Pas simplement, justement, on ne considère pas un symptôme, on va considérer la personne qu'on a en face de nous. Donc, c'est une personne qui a son vécu, c'est une personne qui a des antécédents traumatiques, c'est une personne qui va mobiliser son corps parce qu'il fait du sport ou il a un travail qui peut créer des contraintes mécaniques. Et c'est l'analyse de ce patient qui va nous permettre de lui proposer des solutions. En ostéopathie, on va traiter le patient, mais on peut aussi le conseiller de faire un travail de parole ou d'aller voir quelqu'un pour l'accompagner, parce qu'on voit qu'il y a aussi cette sensibilité ou cette perturbation qui fait que ça va engendrer aussi un phénomène sensible.
Marion, dans le cadre de ta thèse, je suppose que c'est des phénomènes que tu as dû apercevoir beaucoup, surtout chez les femmes, parce qu'on sait que la période menstruelle est forcément source de stress. Est-ce que tu as remarqué ça toi aussi?
J'ai effectivement remarqué qu'il y a des cycles où je comprenais pas parce que les symptômes pouvaient réaugmenter. Et effectivement, quand je comparais en fait les symptômes, mais que je prenais en fait le contexte, et je me disais, ah tiens, cette patiente en fait là, elle a vécu quelque chose elle est tombée malade, elle a arrêté de travailler, et forcément, hop, pic de symptômes. Enfin, forcément, tout n'est pas logique à ça, mais ça peut être un contexte justement favorable à...
Il peut avoir un début de corrélation.
Voilà, c'est ça. Donc ouais, ça peut jouer.
Et dans 15 jours, on croise les doigts, normalement tu seras diplômé. Est-ce que tu as la garantie tout de suite de trouver du travail?
Alors moi pour le coup oui, mais après ça va être propre à chacun.
Parce que t'es la meilleure. Oublie, le patron est pas là du tout.
J'ai pas cette prétention. mais ouais, on espère tous, j'espère être le meilleur dans son domaine, c'est le but. Mais en tout cas ouais, ça dépend vraiment des gens de ma promo pour le coup, parce qu'il y en a qui vont se mettre directement dans le bain et commencer à faire des remplacements, surtout l'été où il y a beaucoup d'ostéos justement qui en profitent pour prendre leurs vacances. Et puis nous, c'est une belle opportunité à se dire, ah bah je vais remplacer un tel dans son cabinet, où on peut tout à fait attendre, prendre une année sabbatique tranquillement, parce que 5 ans d'études
c'est long, oui bien sûr,
c'est long et fatigant, donc on a peut-être aussi envie de se changer un peu les idées. Donc voilà, ça dépend de chacun.
Mais c'est vrai que l'été pour toi Jean-Baptiste qui est directeur de l'ESO, forcément tu dois dire à tes étudiants peut-être, ne partez pas en vacances l'été, c'est le moment où il y a du travail, c'est le moment où on peut faire des stages, c'est le moment où on peut faire que de la pratique.
Alors effectivement, alors on leur conseille souvent, et ils sont mis en relation très tôt parce que pendant tout leur cursus déjà ils sont en relation avec des professionnels en exercice, parce que souvent leurs enseignants sont des ostéopathes qui travaillent aussi en cabinet.
Okay.
Et donc on a beaucoup d'étudiants qui naturellement vont commencer par remplacer leurs propres enseignants déjà dans le cabinet, parce qu'ils se font confiance, ils se connaissent.
Parce que tu pars en congé
Parce que tu pars en congé l'été et que je te laisse les clés du cabinet parce que je te fais
confiance. Pas moi, je vais vider la salle, hein, vraiment, clairement.
On les fait travailler aussi avec le réseau des anciens. On essaye de faire vivre ce réseau des anciens. On a une association qui s'appelle ESO Alumni. Et cette association, son but, c'est de répertorier tous les anciens diplômés de l'école.
Okay.
Ils existent depuis 1990, donc il y a beaucoup de monde qui est sorti de l'ESO. Ils ont essaimé dans toute la France, dans le monde entier. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'un jeune diplômé, s'il cherche un remplacement, une collaboration, à travers cette association, il peut rencontrer des gens qui sont diplômés de son école depuis quelques années déjà, et ça va favoriser justement les échanges. Donc déjà, on va travailler aussi là-dessus avec eux. Et puis Marion, c'était hier, hein, c'est ça? Marion, elle a présenté hier devant un jury, encore un. Il y a beaucoup d'examens, c'est la période.
Il y en a des examens là.
C'est la période.
Il y a des sabbatiques.
C'est, bon.
C'est ça. Elle a présenté son projet professionnel. On va accompagner les étudiants pendant un an dans la construction de leur projet professionnel.
Okay.
Et c'est un business plan où ils vont nous décrire leur installation. Et après, ils vont soutenir ce projet devant un jury d'experts qui va les challenger justement. Et l'objectif, c'est de les accompagner dans leur projet, leur montrer les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire et comment réussir au mieux son installation pour réussir sa vie professionnelle.
Ok, donc là, tu l'as présenté devant un jury il y a quelques jours. Dans 15 jours, il y a encore un examen. Dis-moi, la semaine prochaine, il n'y a pas d'examen?
Eh bien si.
Y a rien. Mais si, mais ça ne s'arrête jamais en fait.
Il en reste que deux, on touche au bout.
D'accord, et la semaine prochaine, c'est lié également à la thèse?
Non, c'est autre chose. Ça va être un examen pratique. Bah, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure devant les...
Ah, c'est le fameux examen pratique.
Oui, voilà, c'est
d'accord.
Ça.
Vous faites d'abord la pratique avant la théorie.
C'est le clinica et la soutenance du mémoire en dernier. Et après, si tout va bien, une fois que le mémoire est soutenu, normalement...
On est bon.
Normalement, on fait la bamboche, c'est bon. C'est et on
ça.
Est diplômé.
On l'espère. Oui.
Bon, bah, on espère que tu seras diplômé d'ici 15 jours. En tout cas, Marion, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était passionnant
toi.
De t'écouter. Et tu vas pouvoir donner le casque hein, de tes collègues, un futur consoeur, un confrère plutôt. C'est Andrea.
C'est
merci, merci beaucoup,
encore
Marion.
Merci, avec plaisir.
Merci, avec plaisir. C'est Andrea qui va prendre le casque et s'installer avec nous en studio, toujours en compagnie de Jean-Baptiste Autin, directeur de l'ESO. Andrea, au nom de toute l'équipe RMC, encore une fois, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comme Marion, est-ce que tu es en cinquième année également ou est-ce que tu as dû présenter une thèse là aussi il y a quelques jours ou est-ce que tu vas la présenter d'ici quelques semaines ?
Bonjour à tous. Effectivement, je suis en dernière année comme Marion. J'espère diplômer aussi dans 15
jours. Bien sûr, on l'espère.
Et du coup, oui, j'ai dû présenter un mémoire aussi à l'oral. Moi qui portais sur un protocole spécifique à l'ostéopathie qui s'appelle le protocole de Spencer. Et qui,
c'est lié à l'épaule, ça.
Voilà.
Ouais, ouais, c'est très bon.
Qui touche au complexe de l'épaule. Et du coup, je l'ai choisi parce que j'ai eu plusieurs traumatismes durant ma pratique sportive sur cette zone et naturellement durant mes études c'est une zone qui m'a beaucoup intéressé et en plus de ça la technique que c'est une technique que j'ai apprécié apprendre et pratiquer en clinique donc du coup bah voilà naturellement en quatrième année j'ai choisi ce mémoire là
okay.
et voilà.
Tu dis que tu as eu des traumatismes, des blessures liées à l'épaule. Est-ce qu'on peut savoir les sports que t'as pratiqué, peut-être des sports de lancer?
J'ai fait du handball et du rugby.
Ok.
Et du coup, voilà, c'est au rugby où je me suis blessé sur un plaquage,
ouais,
tout bêtement.
Bien sûr.
Et donc du coup, suite à ça, j'ai dû faire de la rééducation, etc. Et puis voilà, je trouvais que c'est important, surtout vu que, si possible plus tard, j'aimerais intégrer des enceintes sportives ou des clubs pour pratiquer l'ostéopathie. Bah voilà,
ouais.
Je voulais rester un peu là-dedans.
Est-ce que, et JB, on a l'impression, Andrea vient de parler des clubs sportifs, qu'il y a beaucoup de kinés qui travaillent avec eux, mais j'ai l'impression que les clubs sportifs, que ce soit football, rugby, basket, font pas encore assez appel à des ostéos. Est-ce que c'est le cas ?
De plus en plus,
plus
on
en
a
plus, ouais.
De plus en plus et on a de plus en plus d'ostéopathes qui interviennent justement sur les grands événements et qui suivent les équipes. Et souvent même ils vont travailler toujours de manière complémentaire et coordonnée avec les équipes de kiné. Donc on a des gens qui travaillent sur des équipes de basket national, on a des gens qui travaillent sur des équipes de judo. Dans le foot, il y a aussi beaucoup d'ostéopathes.
Okay.
Et dans la course à pied, on a énormément de coureurs, de runners qui vont consulter les ostéopathes et qui sont accompagnés pendant les courses par les ostéopathes. Donc on voit l'émergence de plus en plus et cette demande des sportifs pour avoir cet accompagnement spécifique.
Est-ce qu'au sein de l'ESO, parce que j'ai l'impression que tu connais très bien ce que font les étudiants que tu as eu sous ta direction, est-ce qu'une fois qu'ils sont diplômés, tu les jettes comme ça dans le grand bain professionnel ou il y a un accompagnement sur plusieurs mois, plusieurs années même avant qu'ils deviennent totalement autonomes ?
Alors, ils sont autonomes une fois qu'on les diplôme, hein, c'est le but du diplôme, mais on va continuer à les accompagner. Alors il y a ce fameux réseau ESO Alumni qui est présent,
ouais.
Et puis on cherche à faire des rencontres, à les retrouver régulièrement, à prendre des nouvelles d'eux. On est fiers de leur réussite, on essaye de les mettre en avant. On a des gens qui vont partir sur le Paris-Dakar, on a des gens qui vont partir sur le Tour de France, si on parle du sport.
Okay.
Et ça, c'est des choses qu'on essaye de mettre en avant, ne serait-ce que pour montrer à nos étudiants que voilà tout ce qu'on peut faire une fois qu'on est diplômé.
On a parlé, t'as parlé du Dakar, du Tour de France. J'aimerais qu'on revienne plus précisément à l'événement sur lequel on est pour l'instant au Stade Charletti, la tentative de record du monde RMC Garmin. Et je vais me tourner vers toi, Andrea. Tu as eu l'occasion d'ausculter plusieurs coureurs. Est-ce que c'était plutôt avant la course ou après la course ?
Alors les trois patients que j'ai vus aujourd'hui, c'était plus post-course,
okay.
Qui venaient après. Par exemple, la dernière que j'ai prise en charge, elle venait pour des douleurs résiduelles qu'elle connaissait suite à une déchirure de l'ischio jambier droit.
Ok.
C'est des douleurs, elle ressent des gênes lors de la course, surtout au début, pendant l'échauffement. Elle avait aussi une tendinite au niveau du tendon d'Achille, à droite. Et du coup, en fait, tout ça font que elle a dû compenser ces douleurs-là durant les périodes très douloureuses. Elle a dû compenser, s'adapter, etc. Et ça a impacté en fait du coup au niveau de la posture, au niveau structurel, son bassin. Et du coup, maintenant, en plus de cela, elle connaît des douleurs au niveau du bassin.
Mais j'ai l'impression, en t'écoutant, et c'est passionnant, que tu connais la personne depuis 15 ans, en fait. Alors que peut-être qu'elle est restée avec toi que 20 minutes avant la partie pratique. Est-ce qu'il y a un long développement personnel de la personne pour qu'elle t'explique ses blessures? Comment ça se passe, en fait, concrètement, dans un cabinet d'ostéopathe?
On commence par ce qu'on appelle l'anamnèse.
D'accord.
C'est une partie centrée sur des questions pour connaître le patient avant de passer à la partie pratique. Donc sur ses habitudes de vie, sur son métier, ses activités, sur les antécédents, donc depuis son plus longtemps souvenir, s'il a eu des traumatismes, donc ça peut être des entorses, des fractures, des gros chocs, des chutes, etc. S'il y a eu des interventions chirurgicales, s'il y a un traitement à long terme en ce moment ou s'il y a eu un traitement dans le passé. Et ensuite, on demande au patient pourquoi il vient aujourd'hui. Donc, si c'est pour une douleur, on lui pose des questions dessus, donc tourner autour. Est-ce que c'est la première fois qu'il connaît cette douleur? Est-ce qu'il l'a déjà connue? Est-ce qu'il a essayé des choses pour contrer cette douleur? Est-ce qu'il a remarqué qu'il y avait des mouvements spécifiques ou des activités qu'il pratiquait qui pouvaient redéclencher cette douleur-là? Depuis combien de temps il la connaît? Est-ce qu'il y a des signes à côté de cette douleur-là sur la continuité par exemple, du membre inférieur qui peuvent apparaître lorsque cette douleur apparaît. Et une fois que tout ça est fait...
Il y a un vrai questionnement avant de passer à la pratique.
Voilà. Après, on passe à ce qu'on appelle l'observation. Donc, okay. On observe le patient, comment il se tient dans l'espace. Ensuite, on le teste. Donc, activement, on le fait lui se mouvoir pour voir comment, quand il engage lui, ses muscles, etc., ses structures à lui, comment il bouge. Après, on le fait nous passivement pour voir s'il y a un différentiel ou pas. Mmh. Suite à tout ça, nous, dans notre tête, on a un schéma de traitement qui se met en marche. On lui explique au patient avant de le traiter, toujours. On lui demande s'il y a des questions suite à ça. Si tout va bien, on le traite. Et après, voilà. Et à la fin, on lui donne des conseils par rapport à, par exemple, s'il fait du sport, comment mieux faire quelque chose ou si lui a l'impression qu'il ne le fait pas bien.
Ouais.
Évidemment. Des exercices de mobilité, d'étirements, etc. qu'on voit en cours.
Et potentiellement de corriger cette posture.
Voilà.
Okay. JB, tu acquiesces?
Parfait.
Il a tout dit?
Il a tout dit.
Ah non, mais là, Andréa Marion, là, c'est le haut du panier. Là.
Ah, là, on a le top.
Là, c'est le haut du panier. En tant que coureur un petit peu amateur, et là, on en a beaucoup, il y en a plus de 144 qui vont succéder sur la piste de Charlety. JB, est-ce qu'il y a une pathologie qui revient régulièrement chez les runners, vous, au sein de l'ESO?
Alors souvent les runners ils vont se plaindre de douleurs musculaires, hein. Alors c'est d'un D'accord. côté ou des deux côtés, et très très souvent on va essayer de détecter, nous en tant qu'ostéopathe, l'origine, ce qui pourrait créer, en tout cas aggraver ou avoir un impact sur ces douleurs. Donc l'idée c'est déjà de faire, comme l'a dit Andrea, toute une phase de diagnostic, mm-hmm. Pour voir si c'est l'ostéopathie qui va aider en premier lieu ou s'il faut dire au patient d'aller voir un kiné ou un
D'accord.
médecin. Okay. Ça c'est très important.
Oh, donc il n'y a pas de guerre en fait, vous pouvez vous refiler des,
première étape,
des patients. Et non pas
première,
des cobayes.
Première étape d'un examen chez l'ostéopathe, c'est un diagnostic d'opportunité. Est-ce que c'est opportun que je prenne le patient ou que je le renvoie vers un autre professionnel de santé?
D'accord, mais est-ce que le kiné fait la même chose? Parce que s'il ne fait pas la même chose, vous...
Alors le kiné, nous on travaille, les kinés nous envoient aussi les patients,
okay,
parce que lui aussi il va voir à un moment donné qu'il y a peut-être des problèmes de mobilité, de bassin,
okay.
qui peuvent interférer sur le membre inférieur et créer la douleur du patient. Donc douleur du membre inférieur. On a aussi des douleurs de hanche, hein, ce qu'a décrit Andrea, là, ce qu'il
ouais.
a vu. Donc plutôt des patients aussi qui vont se plaindre d'une impression de perte de mobilité, d'être un petit peu moins mobile. Donc dans la course, on va le sentir, on a l'impression qu'on déroule un petit peu moins le pas, on est moins fluide mm-hmm. d'un côté que de l'autre, on est gêné. Et très souvent, on va essayer de comprendre le runner dans son intégralité. Quand on court, on utilise les bras. Quand on court, on utilise la colonne vertébrale. Et il arrive qu'on ait des patients qui se sentent gênés sur le bassin parce que finalement, ils ont peu de mobilité sur le membre supérieur et ça se répercute sur le bassin. Donc, il y a cette vision aussi globale.
D'accord. Andrea, toi, tu as choisi une thèse liée à l'épaule. Est-ce que l'épaule peut avoir une incidence sur des douleurs musculaires du bas du tronc, j'ai envie de dire?
Comme expliquait M. Autain à l'instant, dans ce qu'on appelle le segment déambulateur,
okay.
Quand on marche ou quand on court, il y a évidemment l'utilisation des membres inférieurs, du bassin, du rachis et du coup des bras qui servent de balancier, qui servent d'équilibre. Donc assez souvent, on peut retrouver des patients qui, suite ou à des traumatismes ou à des pertes d'amplitude ou de mobilité de l'épaule, ont un moins bon équilibre lors de cette course ou de cette marche. Et du coup, ils vont vouloir compenser avec d'autres structures du corps pour garder cet équilibre au maximum, parce que le corps fait toujours en sorte d'être en équilibre.
Ok.
Et du coup, avec ces compensations-là, il va y avoir des sursollicitations d'autres zones et potentiellement, du coup, des douleurs qui vont se répercuter et sur le rachis, sur le bassin, sur les membres inférieurs, etc.
Ok. Quand on parle de membres inférieurs qui sont souvent sollicités chez le coureur à pied, c'est quoi ? C'est les quadriceps et les mollets ?
Alors les quadriceps, les mollets, les ischios également. Et okay. Puis il y a des muscles auxquels on pense moins mais qui vont beaucoup intervenir dans la course à pied, c'est le psoas, c'est les rotateurs de hanches qui sont des muscles qui vont, et les abducteurs qui sont des muscles qui vont stabiliser. Alors en fonction du type de course, ils seront plus ou moins sollicités. Vous prenez un trailer, sur une course on a parlé du grand raid. Quand on les voyait arriver au ravito, à Dodane, généralement il y avait un travail à faire sur la mobilité des hanches parce qu'ils avaient pas mal encaissé.
D'accord.
Là sur ce type de course où c'est un effort très bref, où ça va être très rapide, on est plus sur tous ces muscles qui permettent de travailler justement d'avant en arrière, donc les ischios, les mollets, les quadriceps. Et ce qu'on va faire après, c'est un travail de mobilisation de l'ensemble des articulations pour favoriser le retour veineux et aider dans la récupération. Immédiatement après, on ne va pas forcément travailler une notion musculaire.
Ouais.
On laisse un petit peu le muscle au repos. L'objectif, c'est de favoriser la récup. Et après quelques jours, on va conseiller au patient de revenir nous voir et là, faire un bilan un petit peu plus complet sur l'ensemble des mobilités, une fois qu'il a récupéré vraiment au niveau musculaire de sa course.
Est-ce qu'il y a des exercices pratiques, et peut-être Andrea, tu en as, qu'on peut donner à un passionné de course à pied qui peut faire chez lui tout simplement, même s'il n'est pas blessé, mais pour se sentir mieux? C'est même pas du renforcement musculaire, mais c'est pour prévenir la blessure, j'ai envie de dire.
Bah du coup, par exemple, un patient qui n'a pas de douleur spécifique, mais qui sent, parce qu'il a eu des entorses à répétition durant sa vie, etc., il a une sensation d'instabilité lors de la course au niveau des chevilles, etc., on peut lui donner des exercices de proprioception. Donc, par exemple, les plus basiques qu'on donne en général pour commencer, c'est par exemple quand vous vous brossez les dents le matin, mettez-vous sur une seule jambe, comme ça vous alternez, comme ça au niveau des chevilles.
Vous faites bien réveiller. Hein.
Et du coup, au niveau de l'équilibre, etc. Après, il y a des exercices de mobilité qu'on donne aussi au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des coxo-fémorales, c'est les articulations contre le fémur, qui fait le parallèle entre le fémur et le bassin. Et voilà, et puis après il y a aussi du renforcement musculaire basique avec les élastiques, les abducteurs, les fléchisseurs, les extenseurs, toujours tout en même temps, sinon ça crée des déséquilibres.
Okay.
Donc à chaque fois on donne pas seulement un groupe de muscles, on les donne tous en même temps.
Le renforcement musculaire, il est totalement compatible avec la présence d'un ostéo, une visite hebdomadaire chez l'ostéo, JB?
Oui, bien sûr. Après c'est le patient, nous on va lui demander son programme, qu'est-ce qu'il fait, on va essayer de comprendre s'il a un programme qui est adapté à son objectif, adapté à sa forme physique, et lui conseiller éventuellement soit d'aller voir un préparateur sportif ou un coach pour l'aider à définir un programme qui serait plus adapté si on rend compte qu'il surcharge trop ou que c'est pas adapté à ce qu'il veut faire. Pareil, on parlait des conseils, il y a les étirements également, donc on va essayer d'analyser comment un patient s'étire. On sait une chose, les études le montrent, l'étirement ça marche si c'est régulier.
L'étirement avant ou après l'effort?
Alors, avant, mais pas tout de suite avant, on va essayer de travailler quelques heures avant.
D'accord.
Quand je dis régulier, c'est qu'un patient qui s'étire régulièrement, c'est un patient qui va s'étirer au moins une fois par semaine et faire des séances d'étirement régulières. Un patient qui ne va jamais s'étirer, qui va choisir de s'étirer avant une compétition, on risque de se faire plus de mal que de bien finalement, parce qu'il va travailler sur les muscles. Et puis après, c'est le grand débat après. on regarde les études scientifiques.
Ouais, d'accord, ce débat sera jamais tranché.
Alors les études tendent à aller vers le fait qu'il faut attendre un petit peu pour étirer les muscles par rapport à d'éventuelles lésions musculaires, surtout sur ce type d'effort là, sur le RMC running où on va travailler quasiment fractionné.
Bien sûr.
On va accélérer très vite. 10
minutes
très fort, très vite. Il peut y avoir des petites lésions musculaires. Donc là, ce qu'on va préconiser, c'est plutôt favoriser le retour veineux. Donc ça peut être le froid sur les jambes, le jet d'eau froide. Nous, dans notre pratique, dans notre prise en charge ostéo, on va mobiliser, on va faire des techniques de mobilisation des articulations, toujours pour améliorer ce retour veineux.
Okay.
Et après, faire les étirements peut-être 2-3 heures après ou même sur le jour off du lendemain.
Okay.
Et faire une bonne séance d'étirement. Mais encore une fois, il faut que ce soit régulier. Pour que les étirements fonctionnent bien, il faut les faire régulièrement et pas choisir de les faire juste avant une compétition et pas les faire le reste du temps.
Ok. Messieurs, c'était passionnant à vous écouter. J'ai encore deux questions, une pour toi Andrea, une pour Jean-Baptiste. Andrea, dans 15 jours normalement tu es diplômé. Est-ce que tu sais dans et t'es en train de lever les sourcils quand je dis ça, mais non, tu seras diplômé. Est-ce que tu sais dans quelle branche tu vas partir tout de suite derrière?
Du coup, grâce au projet professionnel mis en place par l'école. J'ai pu faire quelques démarches déjà durant cette année et j'ai eu l'opportunité de pouvoir, en tout cas pour l'instant c'est encore en pourparlers, mais d'intégrer un cabinet pluridisciplinaire.
Génial.
Avec plusieurs corps de métiers de la santé et de santé. Et du coup, la première année, voir comment ça se passe au niveau emploi du temps, etc. Et j'aimerais, durant la deuxième année, une fois que je serai stable au niveau emploi du temps et que j'aurai pris mes marques, faire deux formations donc, en traumato du sport.
Okay.
Et diététique et nutrition, parce que je trouve que l'un va, enfin la diététique et nutrition et le sport ont un lien très, enfin c'est très intrinsèque. Donc voilà, donc c'est mon projet en tout cas sur les deux prochaines années.
C'est passionnant, on a écouté Marion il y a quelques minutes, cette fois-ci on t'écoute toi avec deux projets totalement différents que l'ESO permet. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation, merci pour votre présence. JB, est-ce que tu peux nous rappeler les informations pratiques concernant cette école? On la trouve où? Est-ce que vous avez un site internet?
Alors l'ESO, on a un site internet, eso-supposteo.fr, on la trouve à Champs-sur-Marne. Notre particularité, c'est qu'on a une clinique intégrée, donc tous ces praticiens que vous voyez aujourd'hui, ils travaillent aussi en clinique, on est ouvert de 8h à 19h, 6 jours sur 7, samedi compris.
Très bien.
Toute l'année, on accueille tout type de public, le sportif, la femme enceinte, le nourrisson, le travailleur, toutes les personnes qui veulent avoir un suivi en ostéopathie. Et ils ont la chance de pouvoir être suivis justement par des étudiants comme Andrea et comme Marion, qui peuvent les suivre tout au long de l'année, leur proposer des soins et une prise en charge ostéo.
C'est génial. On a toutes les informations. Merci infiniment. Merci à Marion qui est venu il y a quelques minutes. Merci à toi Jean-Baptiste. Merci à Andrea. On croise les doigts pour toi et Marion dans 15 jours. Mais franchement, si vous êtes là, je me fais pas de soucis. Vous avez l'air d'être passionné et passionnant. En tout cas, c'était vraiment un régal de vous écouter. Merci infiniment.
Merci à vous.
Et puis à bientôt sur RMC Running avec Benoît Boutron et Yoann Durand qui reviendront avec des épisodes inédits. À bientôt.
À très bientôt. À bientôt.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim, located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their six pools on three different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options from cozy day beds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com. Mom.